France Inter.
Tous les jours, on a été à l'heure.
Oui, mais on avance.
Ah oui, c'est vrai. Oui. La bande originale, oui, c'est maintenant. Avec une claque de bout de
pied. Bonjour.
Lisa Del Moitié. Ton micro est trop bas, Lisa.
Oui, je sais.
Pas, voilà, Camille Lavabre.
Bonjour.
Bruno Becchi. Paul Delà,
bonjour.
Tanguy Passion,
bonjour.
Daniel Morin,
vous gagnez.
Et notre invité, monsieur Laurent Lafitte.
Ah, oui. Leïla Kadour et Nagui.
Bienvenue Laurent, comment allez-vous? Tous mes voeux d'abord.
Oui, bonne année. On dit pas, on vous le dit, oh, cette si, personne ne me dit si, bonne année cette année.
Ah, c'est vrai.
Bonne année. Ouais.
Ah, bah, bonne année.
Pardon, bonne année.
Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit dans la loge tout à l'heure.
Oui, mais vous n'êtes pas le monde, Nagui.
Je ne suis pas le monde.
Quand je dis personne, je ne parle pas.
Et vous étiez au téléphone, mais même pas calculé. Laurent, le quatrième mur, ce film.
On se raconte tout, quoi.
Oui, on se dit tout.
Tu m'as pas dit bonjour, en plus.
Avec vous, avec Simon Abkarian, avec Manal Issa, on va en parler, évidemment. Une réussite.
J'ai adoré ce film.
Sur un sujet extrêmement particulier, avec un ressort dans ce film, et ça va être notre tour de table. Une promesse faite à un ami que l'on tient ou que l'on n'a pas forcément tenu. Tiens, Bruno Pekin, le premier, tant pis, toi qui prends. Est-ce que t'as déjà.
Avec un ami, non.
Ouais.
Avec une amoureuse, peut-être, ouais.
Une promesse? La promesse de quoi?
Bah, écoute, ma première copine, promesse de fidélité que j'ai pas tenue.
Que t'as rompu, que... ouais, c'est bon, ok.
Oh non.
Mais okay. Sinon, quand je fais une promesse en amitié ou en relation, maintenant, c'est bon.
C'est ça, c'est ouais. la parole donnée.
Exact.
Camille, ouais. Est-ce que tu as déjà... Alors, deux cas de figure. La promesse que l'on tient pas ou celle que l'on tient malgré tout. Et ça nous fait mal, mais on a dit on la tient, cette parole, et jusqu'au bout.
Alors, la fidélité. J'ai toujours été fidèle.
Malgré tout, tu l'as tenu jusqu'au bout.
Malgré tout, malgré les avances de Daniel Morin, j'ai jamais lâché.
Dieu sait que c'est si prendre.
T'es toujours resté avec Tanguy Pastureau. T'as pas voulu toujours.
Toujours. Promesse non tenue, par contre, je pense à tous les humoristes à qui j'ai dit « Ouais, je vais venir voir ton spectacle. »
C'est vrai.
Lisa ?
Je suis très loyale en amitié, mais du coup, c'est vrai que j'ai parfois, ça m'a poussée à mentir pour des amis, quoi. J'ai dû beaucoup dire à des copains de copines qu'elles n'avaient pas embrassé un mec. Ou
genre, tu sers d'alibi, en
oui,
fait,
voilà,
finalement.
Ça, non, elle était avec moi.
Leïla ?
Je ne fais pas beaucoup de promesses, parce que comme je ne suis pas complètement sûre de pouvoir tout tenir... Non, mais parce que ce n'est pas simple, en fait. Si, je promets d'aller voir des spectacles, mais j'y vais. Quand je promets, vraiment, je le fais. Mais je n'ai pas souvenir comme
ça,
promesse monumentale.
Mais tenir une promesse,
sinon, je le dis pas.
Malgré ce que tu subis, c'est-à-dire que ça t'arrache un bras, mais tu as dit, je donne ma parole.
Le spectacle est nul. Mais...
Et voilà.
Ah oui, si j'ai promis, j'y vais.
Il n'y a pas que le spectacle, ok, d'accord. Hold Olaf.
Ben moi, j'avais promis à Tania Dutel que je viendrais la voir en spectacle. J'ai réussi à le faire hier soir. Voilà.
Donc, t'as tenu ta promesse.
J'ai tenu ma promesse. Voilà,
non, des promesses qui sont difficiles à tenir. Ouais. Tanguy, ça t'est arrivé?
Jamais de promesses.
Est-ce
vraiment,
que t'as un exemple?
Jamais.
Un exemple?
Ah, moi, j'en ai.
Vas-y.
C'est-à-dire que c'est très délicat. C'est un
truc couple, de fidélité.
Une histoire d'amour, oui. De jeunesse. Un couple d'amis et le mari me dit, ma femme va venir à Paris. Est-ce que tu peux, entre guillemets, l'accueillir et la protéger?
Aïe.
Exactement. Laurent a eu l'œil qui a pris.
Non.
Il voulait pas dire ça, ton avis. Il voulait pas dire ce que t'as fait.
Et vraiment, il y a eu ce qui pourrait ressembler à un crush, sauf que je m'interdisais. Ah, et ça m'a...
Ça, c'est pas une promesse. Ça s'appelle
j'ai donné ma parole de m'occuper d'elle, mais elle m'a fait des avances que j'ai déclinées. Mais j'ai pas, évidemment pas dit à son mec.
Elle a fait des avances.
Ah oui, elle a fait des avances, ouais.
Ah oui.
Que j'ai déclinées.
Mais
j'ai
pas vraiment une promesse.
Ah bah,
promettre, c'est promettre que, je sais pas, à tes enfants que dans 10 ans vous allez faire ça et que tu t'y tiendras. Parce que là, en fait, t'as promis quoi? C'est plus de la loyauté par rapport à toi.
Tu me clashes alors que toi, tu promets d'aller voir un spectacle. Si tu me fais...
Non, mais parce que c'est toi qui poses la question.
Je pose la question sans
alors,
savoir.
Alors, Leïla, tu sais que j'aime pas Nagui, mais elle a pas tort sur ce point.
Non, mais j'ai pas dit qu'il avait tort.
Alors, moi, j'avais un copain qui était à un moment très malade et il m'avait demandé de parler le jour de son enterrement. Et il meurt pas, ce con. Donc, je suis là. J'ai réactualisé, tu vois.
Fais-moi penser à ne pas te demander de prendre la parole pour mon enterrement, s'il te plaît. Laurent Lafitte, est-ce que vous avez déjà promis quelque chose et ça vous a déchiré de devoir tenir cette promesse jusqu'au bout? Ça vous a fait mal? Cette parole vous a fait mal?
Non, c'est vrai que moi j'évite les promesses, mais je suis loyal. Je pense être loyal, ouais.
Une parole donnée, c'est sacré.
Ah bah oui, ouais. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir.
C'est le cas de votre personnage. Oui. Il fait une promesse à Sam, si j'ai bonne mémoire.
Oui, absolument.
C'est ça, ouais. qui est une personne en qui a été importante dans sa vie d'acteur, mm-hmm. puisque vous jouez, c'est une mise en abîme, c'est un acteur qui se retrouve...
un metteur en scène, ouais.
Obligé... Ouais, il est à la fois le conteur, la voix
oui,
d'Antigone.
Oui, il décide de faire le narrateur, le cœur. Ouais.
Le cœur.
Et il se retrouve vraiment là dans une situation de conflit et de guerre, puisque il doit aller au Liban pour tenir cette parole et cette promesse, aller au Liban et réunir une troupe pluriculturelle, religieuse, avec des catholiques, des juifs, des musulmans, dans une situation de guerre. On est dans les années 80.
82, guerre civile au Liban, ouais.
Et il va se retrouver finalement au front.
Ils doivent jouer sur la ligne de démarcation, oui. Cette pièce, d'un point de vue symbolique, pour réunir les oui. Druzes, les maronites, tendance, phalangiste ouais. Un peu extrême, et la palestinienne.
Voilà, c'est ça. Et lui-même fait cette promesse à son ami Sam, donc qui est en train de mourir et qui ne pourra pas monter ce spectacle. Et Sam lui demande de partir avec sa kippa.
Parce que, la kippa du père de Sam, en
plus. Voilà, du père de Sam. Parce que ouais. Sam est, et il pense la porter, lui, pendant qu'il jouera le chœur. Et puis il se rend compte qu'en fait, que personne dans son équipe
ne dessine.
Donc il dit, bon, je voulais la porter, mais je vais juste la garder dans ma poche.
Ouais,
c'était une manière que tout le monde soit vraiment représenté dans ce spectacle. Donc, et c'est une manière aussi pour le film de pas tenter de ouais. trancher les choses.
Et puis, il y a aussi ce parallèle avec Antigone, une pièce montée par Anouilh au Théâtre de l'Atelier en période de guerre, qui dénonçait ouais. aussi le comportement de Pétain, des résistants ouais. aussi. Il y a tout un message qui apparaît en filigrane, on va en parler. En tout cas, le film est une réussite, ouais. parce qu'il y a aussi cette nuance entre la tragédie et le drame que vous évoquez. Vous donnez beaucoup de définitions et beaucoup d'intentions, et d'ailleurs d'explications du jeu d'acteur. Je trouve cette mise en abîme très intéressante, parce que quand on entend certains comédiens jouer et qu'on se dit, oula, c'est trop fort, c'est trop chanté, et que derrière la réplique c'est, bah c'est trop fort, c'est trop chanté, parle-moi doucement, t'es pas obligé oui. de porter la voix comme ça.
Et on en reçoit beaucoup ici.
C'est fatigant. C'est extrêmement intéressant, et puis surtout, il se retrouve dans un monde qu'il ne connaît
ouais,
pas. Il sent, paraphraser le titre de l'autre film sur l'affaire Sarkozy.
Personne n'y comprend rien.
Personne n'y comprend rien, voilà. Mais la phrase est dite d'ailleurs dans le film. Personne n'y comprend rien à cette guerre.
Oui, c'est Simon Abkarian aussi qui
essaie.
On entend des tirs dans la nuit à Beyrouth, et je dis, mais alors là, qui tire sur qui? Il dit, on ne sait pas si c'est les Druzes, les Chrétiens, les Palestiniens. Et il dit, de toute façon, c'est le Liban qui tire sur les Libans.
Mais pardon, encore aujourd'hui.
Fin de la phrase.
Ah oui. Encore aujourd'hui, dans tout ce qui se passe au Moyen-Orient, personne n'y comprend rien.
Oui, mais on peut étendre ça à tous les conflits. Finalement, c'est des hommes qui tirent sur des hommes.
Ouais. Ouais. On en parle jusqu'à 12h30 de la formidable interprétation de Laurent Lafitte, de cette réussite qui s'appelle Le Quatrième Mur et qui est en salle à partir d'aujourd'hui. Voici Hold the Love qui est fan de vous, Laurent. Oh.
Je suis fan de Laurent Lafitte. Je suis fan depuis que je mange plus de grec frites. C'est un ancien de la comédie française, ça crâne, mais l'on virait à cause du guest dans Catherine et Liliane. Je suis fan de Laurent Lafitte. Moitié comédien, moitié Cobra Kite. Il adore la baston et a monté un Lafitte Club. Nagui m'a dit la règle, c'est qu'on parle pas du Lafitte Club. Ok. Et vous êtes là pour le film Le Quatrième Mur, sur un type qui veut faire un guacamole, bien sûr. Il teste les avocats, mais le premier, pas mûr. Alors il teste le deuxième, pas mûr. Alors il teste le troisième, pas mûr. Alors il teste le quatrième, oh, pas mûr non plus. Ok, alors il va pas faire de guacamole.
Tu as honte.
Bah oui. Je suis fan du livre de Serge Chalandon. Son perso s'appelle Georges car il rêvait d'un vrai prénom. Il veut monter Antigone et ça tourne au fiasco. Les Libanais ont compris Antigang de Jean Reno. Lafitte seul apparemment
ouais.
se rend à Beyrouth au Liban où ça éclate. Il veut monter une compagnie, jouer Antigone si réussi, c'est de la chatte. Là-bas on peut pas se reposer, il y a des bombes sur le marché, dans la cuisine. Mais il se bat, risque sa vie, Laurent Lafitte c'est ça aussi, c'est une machine. Je suis fan de Laurent, même si physiquement on peut croire que c'est le fils de Michel, mais lui il fait pas le noir. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Yes! Laurent Lafitte qui pensait ne plus entendre cette vanne.
Ouais, franchement, ouais, je vais me dire, oh, ça, c'est d'ici à 20 ans quand même, je ne sais plus longtemps.
Ouais, c'est ça. Eh ben non,
c'est la première fois qu'on se rend compte, il fallait bien que je
respecte. Ou pas. Il sera où
bah, toujours, toujours
que Laurent aille lui casser la tête.
Toujours dans la tournée des villages qui n'existent pas en vrai. Hein. Le 30 janvier à La Roche-la-Molière, le 31 à Fézin et le 1er février à Saint-Marcel.
Ah. Pas parce que tu connais pas.
C'est Groland.
C'est un peu ça.
France, il n'y a pas de date.
Je vais jouer pour tout le monde.
Il s'agit en effet, il a chanté au milieu de toutes les mauvaises informations et gros jeux de mots. C'est l'adaptation d'un best-seller, en effet.
Le Sort Chalandon.
Ce film qui avait reçu le prix Goncourt des lycéens, c'est ça?
Oui, absolument.
Vous l'aviez lu ou vous l'avez
découvert? Non, je ne l'avais pas lu. J'ai découvert l'histoire en lisant le scénario.
D'accord. Ouais. Cette histoire, pour vous, justement, c'est l'histoire d'une promesse ou c'est l'histoire de l'œcuménisme et de l'art qui essaye de réunir les opposés?
Oui, c'est ça. C'est un peu la question de l'art plus fort que la guerre. Ou, qu'est-ce qu'on fait de l'art? À quoi servent les artistes pendant des périodes de conflit et la place de l'artiste dans la société?
Et c'est interrogé. Le personnage de Simon Abkarian dit à votre personnage, Georges, oui. C'est pour vous que vous faites ça.
Mais c'est ça, t'es là pour ta bonne conscience.
Et pour toi.
Mais c'est vrai, c'est une vraie question. Ah, c'est une vraie question qu'il faut.
Oui, d'autant qu'il y avait aussi un regard sur la France et les Français qui était tendu à ce moment-là. À nous, il y avait fait ça, c'était une prise de position politique et risquée en faveur de la résistance contre les pétainistes à ce moment-là par cette parabole, cette image qu'il fait du corps qu'il faut retrouver, qu'il faut enterrer, jusqu'où on peut aller contre l'ordre et contre la loi par rapport à l'honneur et par rapport à l'amour.
Oui, mais quand Antigone est montée pendant l'occupation, je dirais presque la situation elle est plus simple, quoi. Il y a un occupant et puis il y a des gens qui résistent à cet occupant.
C'est identifié.
On sait clairement où il l'ennemi.
Voilà, alors que là, c'est
On parle d'un ennemi aussi intramuros avec les pétainistes.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a tellement de communautés différentes à Beyrouth.
Que l'ennemi est partout.
Bah, en tout cas, il est plus difficile à identifier, à cerner, surtout pour un regard occidental de quelqu'un qui débarque comme ça avec un idéal artistique, intellectuel, assez cérébral finalement, et puis qui va être confronté à ce qu'est la réalité d'un conflit. Archi communautaire en fait. Et c'est vrai qu'en France, on grandit dans un idéal d'universalisme républicain qu'on questionne pas mal d'ailleurs en ce moment, mais à juste titre d'ailleurs, parce que l'universalisme c'est bien, mais sur quelle base? Il faut bien quand même décider les choses. Donc, mais en tout cas, ça montre une société archi fracturée par le communautarisme et quelqu'un en face qui n'a pas les armes finalement pour affronter la réalité de la guerre, quoi.
Il n'a pas les armes, mais il a son art, et puis il a surtout sa volonté, et sa détermination, parce que c'est pas un guerrier, c'est pas un fighter, il se retrouve quand même sous les tirs d'obus, de balles,
ouais, courageux, quand même.
Et sa vie est en danger.
Oui. Il a un ange gardien, quand même, Simon Abkarian, exceptionnel, chauffeur de ruse, lui aussi, c'est intéressant de voir cette communauté de ruse qui est quand même très importante au Liban, parce que c'est important pour comprendre cette société qui, en fait, pratique aussi sa religion avec l'amplitude qu'il veut aussi.
Oui, ben ça, beaucoup de gens pratiquent leur religion.
Mais oui, mais sauf qu'de loin, l'occidental souvent perçoit les choses comme beaucoup plus raides.
Et pour être précis, on peut être musulman et prendre de l'alcool. L'important, c'est que ça reste au sein de la famille et qu'on le fasse pas devant tout le monde pour provoquer l'ire de qui que ce soit.
J'ai plutôt vu l'inverse, moi. Non, mais plutôt vu pas à la maison, mais avec les copains.
Non, mais là, il y a
ça dépend des pratiques.
Oui, non, mais il y a une scène où c'est dit.
Oui, c'est clairement. Oui,
chacun
c'est
s'arrange avec.
Excusez-moi, je parlais du film.
Non, mais...
Faites ce que vous voulez. Hein. Ouais,
pas grave.
Voyez-vous de voyez-vous ailleurs.
Et ouais, bien sûr.
On va arranger ça.
Se débrouiller.
On en parle jusqu'à 12h30 de ce film. Voici Lisa Delmoitier.
Bravo.
Parce que vous, Lisa, vous n'auriez pas fait le film comme ça, Quatrième Mur.
Non, écoutez, en fait, c'est le titre qui m'a fait peur. Moi, je déteste les Quatrième Murs. Je passe ma vie à les casser. Je vous jure, non seulement je fais du stand-up, mais j'ai une cuisine ouverte. Donc vraiment, j'ai un peu honte avec tous ces jeux de mots de continuer là-dessus. Mais on y va. Non, moi, j'ai une cuisine ouverte. J'aime bien pouvoir parler à mes invités quand je leur fristouille des bons petits plats faits maison. Je voudrais pas être exclu de la conversation sur si oui ou non Camille est un mec finalement. Sous prétexte que je suis occupée à faire fondre des apéricubes sur des saucisses ou un coup. C'est ma spécialité. Je suis un grand chef. Mes potes m'appelle Paul Bocu. Dans ce film, votre personnage, Laurent Lafitte, se retrouve à traverser le quatrième mur qui sépare la scène de la vraie vie, un peu comme mes collègues et moi, quand on joue en comedy club, finalement. Bon, vous, votre personnage brise le mur en étant plongé dans la guerre au Liban. Nous, en demandant au gars au premier rang, « Et quoi, t'es venu en coupe ce soir? Tu baises mon cochon ?» Je rappelle que le step-up, c'est de l'art. Hein. Et pourquoi votre personnage se retrouve dans un pays en guerre? Pour la même raison qui fait qu'un Français aujourd'hui se retrouve sous les bombes, par choix. Hein ? Quel choix étonnant. Bon, la prochaine guerre mondiale nous pend au nez, mais en voyant le film, je me suis quand même encore rappelé de la chance que moi j'ai de vivre dans un pays où les bombardements sont comme le saumon au brunch ou le lap dance privé au strip club en option. Je ne suis pas en train de comparer le saumon à un strip club. Enfin, dans les deux cas, j'évite ceux d'élevage. J'aime bien le sauvage. Mais sa mission, votre personnage, elle est peut-être... elle est quoi ? Elle est noble, voilà.
C'est bien écrit. Ouais. Elle est à la ligne.
Ouais, c'est ça. J'oublie tout le temps qu'il faut descendre les yeux sur la feuille. Non, mais c'est bien ce qu'il fait. Il met en scène Antigone avec des locaux. C'est bien, respectez-le. Mais enfin, quand même, quand je vois des Français chanceux de ne pas vivre sous les bombes, aller de leur plein gré au devant du danger, je suis là, mais monsieur, tu veux te sentir en vie, tu ne peux pas faire une escape room comme tout le monde. Du lancer de hache, c'est bien ça, le lancer de hache. Il y a une salle exprès dans le 11e, juste à côté d'un bar à matcha. Bon, voilà, t'as des petits frissons, quoi. Est-ce que se faire bombarder en tant que Français aujourd'hui, c'est pas un peu de l'appropriation culturelle, finalement? Merci, Bruno. Il y a un moment, il faut savoir d'où on parle. Hein. Les guerres de religion, c'est comme les dreadlocks ou le costume d'Indien. Je me sens pas légitime. Bon, ce qui est bien avec votre personnage, Laurent, c'est qu'il va pas sur place pour expliquer aux gens comment ils doivent gérer leur propre guerre. Ouais. À vrai dire, il reconnaît qu'il y comprend rien. Et putain, qu'est-ce que j'aime les gens qui reconnaissent qu'ils y comprennent rien.
Bah ouais.
Pourquoi croyez-vous que je vous aime tous? On passe ma journée à dire je comprends pas. Non, mais moi, j'essaye de me tenir informé sur les enjeux politiques, sociaux, les conflits mondiaux, parce que ne pas savoir, c'est pas neutre. Hein. Ignorer, c'est choisir un camp. Mais il n'empêche que je suis souvent larguée. Donc, quand quelqu'un reconnaît à côté de moi qu'il comprend rien non plus, oh là, je suis aussi soulagée quand quelqu'un avoue que lui non plus a jamais vu Star Wars. Non, j'ai jamais vu Star Wars. Ça me fait du bien de. Non, mais ça fait du bien de le dire. Oui,
mais moi non plus.
Pas même. Oh si, pas tout. Quoi. Pas en entier.
Bon, j'en ai rien d'autre. Vous avez vu Casablanca?
Bah oui, oui.
Et ça ne faisait pas partie de la saga.
Le culot de tester Laurent Lafitte. Oui, j'ai pris une confiance, moi.
Oh bah oui.
Jurassic Park, non. Ce qui est fort avec ce film, c'est qu'il assume son point de vue français. Hein. Il ne s'agit pas de faire semblant qu'on peut se mettre à la place des Libanais parce qu'on a un jour bouffé du houmous, quoi. Et ça vaut aussi pour mon pote qui a été une fois en Italie et qui maintenant me reprend. Non, Lisa, ça se dit cacio e pepe. Du calme, le de laf. Chacun sa culture, t'as une fois en Italie. Donc revenons à l'essentiel. Quelqu'un sait si elle a un mec, Camille?
Voilà. Merci. Lisa Delmoitier, qui n'a toujours pas vu Star Wars puisqu'elle est en tournée.
Oui, bien sûr, elle ne peut pas puisque le 24, elle sera à Moucron et le 25 à Tournai.
Ils n'ont pas encore eu Star Wars là-bas.
Pas encore,
mais c'est vrai que votre personnage qui n'y comprend rien, on s'identifie aussi parce qu'on suit le personnage de Georges. Et dans les moments où la langue arabe est utilisée, elle n'est pas sous-titrée. Et je trouve que ça participe. Tout d'un coup, on est comme soi-même dans un pays étranger où on ne comprend rien et on s'accroche au visage, aux intonations. Oui. Et on est
tout le temps dans le point de vue de Georges. Ouais. Même la traversée terrible du camp après les massacres de Sabra et Shatila, on est que sur lui et on découvre l'horreur en arrière-plan une fois que lui l'a traversée. Il n'y a jamais de plan sur les corps.
Ça, c'est une scène qui vous a fait hésiter ou pas à la lecture du scénario de dire tout d'un coup représenter ce camp de réfugiés où il y a eu donc ce massacre en 82. Oui. C'est un Sabra et Shatila, c'est dans l'imaginaire, c'est quelque chose de puissant.
Ah oui, c'est l'horreur. Oui.
Je pense que c'est davantage le réalisateur à qui ça posait des questions très très importantes, parce que comment montrer ça,
David Wallofen.
David Wallofen, ouais. Et moi, je lui faisais confiance parce qu'on a parlé du film et que j'avais vu déjà ses précédents films. Donc, je savais qu'il allait traiter ça avec pudeur et en même temps avec ce qu'il fallait de frontal pour raconter l'horreur. C'est toujours compliqué, quoi.
D'autant que ce côté totalement perdu dans un monde qu'il ne comprend pas, il ne prend aucune position, il ne prend aucun parti pour qui que ce soit. On a parlé des différentes religions dans le casting de la pièce. Il y a aussi une opposition politique entre eux. C'est pas simplement le point de vue de la religion. Il y a une question presque de vie ou de mort qui se joue, et y compris dans la manière dont ils vont être traités.
Ouais.
Il y a des affaires d'honneur avec on interprète une pièce, mais je ne peux pas jouer tel personnage. C'est je vais être humilié. Ouais. Ce n'est pas toi, c'est le personnage. Non, je n'accepte pas.
Ça va loin, quoi. Bah oui, parce que justement, les enjeux sont plus importants que si ils montaient ça en France avec juste des acteurs. Là, comme chacun représente une communauté, forcément le rôle qui lui sera attribué prend un sens.
Mais il y a quand même des acteurs en France qui refusent d'interpréter tel ou tel rôle en disant, moi je n'ai pas envie d'aller dans tel domaine. Non, vous accepteriez tous les rôles possibles
tant que ça m'intéresse, tant que ça m'intéresse, oui. Je passe,
et ça vous engage que vous, là ça engage pas ça engage une communauté, en fait.
En plus,
oui, c'est ça. Et d'ailleurs, voir
une famille, d'ailleurs, le rapport mère.
Oui, et puis le frère d'un des acteurs dit non, tu peux pas, je vois pas pourquoi mon frère aurait ce rôle-là, ou il y a une femme aussi.
Ou tu vas l'humilier,
la proportion du rôle.
Oui, si le rôle est trop petit, pourquoi nous on a un petit rôle alors que telle autre communauté qui est représentée par un autre acteur a un rôle plus important. Et puis il y a une actrice aussi qui veut pas jouer le suicide parce que c'est haram pour elle, donc elle veut pas jouer le suicide. On dit mais c'est pour de faux, c'est de la fiction.
Et genre j'ai très des concessions ici, même ici on traduit pas les mots arabes, vous avez remarqué.
Il y a un moment faut s'adapter.
C'est
grand remplacement. C'est la nouvelle émission de 11h à 12h30. La bande originale, j'ai trouvé ça nul comme titre.
La bande islamo-gauchiste originale.
T'as pas été la seule, mais je m'étais fait une promesse. Je la tiens.
Tu veux dire de... Non.
Est-ce que dans le... vous pourriez expliquer de votre point de vue la définition du quatrième mur au théâtre? Parce que peut-être que là, on est très dans l'entre-soi. Genre, on sait tous ce que ça veut dire.
On est sur Inter. Hein. Entre soi à mort, quoi. Qu'est-ce que je dis ?
Mais contrairement à Lisa, moi je trouve le titre extrêmement fort et intelligent dans ce parallèle entre la destruction, la guerre et le quatrième mur au théâtre.
Oui, donc il ne s'agit pas d'avocat. C'est le quatrième mur, c'est
encore raté.
Vous pouvez rajouter connard à la fin de votre phrase.
On l'entend.
Il y était, non ?
C'était élégant. Moi, je l'ai eu
en sous-texte. Non, le quatrième mur, c'est cette frontière invisible qu'il y a entre la scène et le public, qu'on ne franchit pas, enfin, sauf que si le metteur en scène décide de le franchir, ou même qui marche aussi au cinéma, puisqu'à partir du moment où on s'adresse directement à la caméra, on brise aussi ce quatrième mur. Et là, en l'occurrence, c'est la tragédie qui va briser le quatrième mur et qui va englober et absorber
le public,
les participants, le Georges, au-delà de ce que, je veux pas spoiler le film, mais il y a un moment de bascule pour Georges qui est j'en ai trop dit. Mais il y a des moments.
Rappelez-nous la définition que vous faites dans le film de tragédie et
drame.
La différence entre le drame et le tragédie. J'adore. Oui, Georges dit que le drame c'est bourgeois parce que le drame c'est petit, on cherche des solutions, on espère qu'on va s'en sortir. Alors que la tragédie c'est implacable, on sait que c'est mort, donc il faut y aller comme un roi et il faut mourir comme un roi, quoi, tout droit.
Pas d'affect.
Comme les comédies romantiques, on sait que les deux vont se retrouver forcément ensemble et amoureux à la fin du film. C'est là où on est aussi dans une tragédie romantique. Parce qu'il y a ce piège du metteur en scène et de l'actrice et ce désir qui naît chez l'un et chez l'autre. Je ne dis pas que ça arrive dans toutes les pièces ni dans tous les films, mais il y a toujours en tout cas un jeu de séduction qui s'installe.
Alors un jeu de séduction, je pense pas. Après, je pense qu'il y a des choses
Quand vous jouez, vous ne cherchez pas à séduire la réalisatrice ou le réalisateur qui est derrière la caméra.
Ah bah non.
Vous cherchez à lui plaire.
Non, je cherche à lui donner ce qu'il ou ce qu'elle me réclame, mais je cherche pas.
Je parlais pas d'amour. Pas... Hein, je...
Oui, mais même c'est pas de la séduction. D'accord. Je cherche pas une ne serait-ce qu'une validation. J'ai juste envie que il ou elle obtienne
la justesse attendue. Voilà.
Mais c'est pas un rapport de séduction. Après, c'est sûr que quand on a des discussions très intimes, quand on travaille sur des personnages, sur des histoires, des discussions l'impression qu'on n'a pas forcément quand on travaille chez un assureur, quoi. Donc, forcément, dans le travail.
Pourquoi cet exemple?
Non, mais je sais pas, je cherche un métier un peu plus traditionnel.
Voilà. Mais, vous saviez ce qui se passe au monde de l'assurance.
Oui, en plus, je suis sûr que, oui.
C'est mais, chaud. C'est terrible. L'année dernière, hein.
Forcément, on a des discussions qui tournent autour de l'intime et on peut être surpris par les liens, du coup, que ça crée. Mais,
Et puis là, c'est en zone de guerre, en fait. C'est aussi, je pense que ça exacerbe. Bah,
bien
un peu,
sûr, c'est
ça.
Sûr. Il y a des instincts de survie. Ouais. Oui, bien sûr.
Et puis, il y a la fête aussi. Il y a des moments de lâcher prise. Et on a une douce pensée quand même pour le Liban qui est une terre formidable mais qui subit des attaques, des guerres permanentes, qu'elles soient intestines ou venant de l'extérieur. C'est vrai que le film arrive là au moment où l'actualité au Proche-Orient n'est pas la plus heureuse, même si on parle de plus en plus d'un accord de paix qui pourrait arriver dans le cours de la semaine. Ce qui serait l'idéal. Et ce quatrième mur, donc, ce parallèle entre les destructions matérielles, et d'ailleurs l'affiche le prouve avec ce mur en béton armé explosé par un tir d'obus, et ce mur qui tombe au théâtre quand on s'adresse, quand on concerne le public et qu'on le fait participer directement au spectacle, où l'autre idée aussi est que les acteurs n'aient pas de costume en particulier, qui viennent comme ils sont dans la vie.
Parce que tu n'as pas de décor, juste une lumière. J'ai une pensée pour les gens qui ont travaillé sur le film, toute l'équipe libanaise, les acteurs, la productrice, Sabine Manalissa qui joue la comédienne Iman.
Il y a également Bernard Bloch,
qui vit à Beyrouth.
Tarek Yacoub, Nasri Sayeg, Pio Chahine, Eli Ndiem, Dana Michael, Tracy Younes et Kitam Al-Laham. Et puis un jeu de Simon Abkarian, il y a une scène que j'ai adoré, et pourtant il est flou au début de cette scène, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand vous reconstituez
le point est sur moi, il m'a volé le plan, vous voulez dire?
Non.
Le
point est sur vous et vous jouez une scène d'amour d'un couple, mais là ce sont deux hommes et vous interprétez le rôle de la femme pour lui montrer et lui il est assis et il commence à être gêné par cette situation,
bien sûr,
et il baisse la tête, mais le point n'est pas sur lui, qui est dingue, et là il m'a chopé, c'est-à-dire je vois la gêne du daron qui se lève et qui en arabe explique, bon là c'est le rôle d'une femme, attention, c'est juste génial. Ça doit être un bonheur de tous les deux, le niveau
Simon,
où vous mettez tous les deux.
Il a grandi à Beyrouth.
Simon, il n'était pas retourné depuis très longtemps, donc il était assez bouleversé de revoir sa ville, et son émotion m'a beaucoup aidé aussi, parce que rien n'est quand on traversait Beyrouth dans cette vieille Mercedes toute pourrie et que Simon conduisait, alors qu'il n'a pas son permis d'ailleurs. Il me transmettait consciemment, inconsciemment des émotions qui m'aidaient à jouer, quoi.
Simon Abkarian, qui est au théâtre des Amandiers à Nanterre, faut le dire,
comme
c'est un passage, nos âmes se reconnaîtront-elles, où il signe le texte et la mise en scène avec Marie-Sophie Ferdan.
Et après, il fera De Gaulle au cinéma.
Absolument.
Pas mal, De Gaulle avec un Arménien libanais.
Ouais, c'est très beau.
Quatrième mur, c'est aujourd'hui, au cinéma, le film a remporté le prix du public au Festival de l'écrit à l'écran de Montélimar, le prix RTBF au Festival international de Namur, le prix du public au Festival du film de société de Royan, le prix du meilleur film au Festival du film francophone de Malaga, le prix du public et de la meilleure adaptation au Festival de la Page à l'écran du Croisic. Que de reconnaissance, bien normal, pas tellement ce film est une réussite. Et bravo pour ça, et bravo à David.
Et au-delà de tous les sujets géopolitiques qu'on évoque, c'est surtout un film de cinéma et qui est très très puissant, de puissance de cinéma pur.
Absolument. Non, mais on peut y voir justement toute l'importance de la promesse, c'est pour ça que je me suis amusé à faire ce tour de table aussi, on peut se sortir de l'actualité brûlante du Liban, de la reconstitution historique, et de l'appréhender d'une autre manière, y compris de se demander comment l'art peut faire évoluer les mentalités et faire avancer les choses. On en parle jusqu'à midi et demi. Voici Camille là-bas.
Bravo.
Bonjour tout le monde.
Ce week-end, je suis allée à un cours de yoga. Ah, on vit des choses, hein. Heureusement que je suis là pour vous raconter, sinon qui parlerait de l'état du monde? Enfin, de Paris Centre, c'est pareil. Bon, et il se trouve que je déteste le yoga. J'ai beau essayer, j'aime toujours pas. Et oui, je sais, c'est surprenant. parce que on va pas se mentir, j'ai une tête à faire du yoga et à boire du thé en mettant les deux mains sous le bol. Je sais que je ressemble à une meuf qui a vu Eat, Pray, Love, mais qui a préféré le bouquin. Oui, quand on me voit pour la première fois, on pense que j'ai un attrape-rêve au-dessus de mon lit et un AVC pré-naissant. Et une énergéticienne de secours. Mais que nenni ! Tout comme d'ailleurs le fait que ma relative sveltesse n'est pas liée à une pratique assidue de cette discipline, mais tout simplement à un régime alimentaire pauvre en glucides et riche en oxygène. Et puis franchement, c'est peut-être sympa le yoga, mais ça sent les pieds. Hein. Chien tête en bas, t'as la position, mais tu as également l'odeur. Dis donc Magali, freelanceuse en marketing digital, namasté à toi aussi, mais si tu pouvais mettre ta main devant tes chakras avant de les ouvrir, on aurait plus besoin d'aérer la salle par -10. On n'est plus sous Covid, mais quand on fait soi-même son dentifrice, on respecte au moins les gestes barrières. Non, et puis le yoga, c'est mou, c'est lent, c'est chiant. Et vas-y que tu passes ton genou droit sous ton pouce gauche. Et vas-y que tu touches tes lobes d'oreille avec tes ongles de pied. Et vas-y que tu contractes tes reins en relâchant le pancréas. Ah, mais laisse tomber, comment c'est compliqué pour si peu de bonheur, quoi. Et beaucoup de complications pour peu de bonheur, en général, c'est signe qu'il faut arrêter au plus vite. Hein. Mais alors, me direz-vous, pourquoi j'y retourne à chaque fois ?
Mais oui, pourquoi ?
Alors, dans l'espoir que peut-être cette fois, ce sera différent de toutes les autres fois, que je vais peut-être être agréablement surprise. Peut-être que cette fois-ci, ça peut marcher, que le yoga et moi, on sera vraiment heureux ensemble. C'est fou, ça. J'ai vécu l'expérience 1000 fois. Je sais que c'est pas pour moi, mais j'y vais quand même dans l'espoir de trouver le bonheur en y retournant. Alors, bien sûr, j'ai connu ça avec mon ex, avec le yoga. Mais pas que. Par exemple, le week-end dernier, j'étais invitée à l'anniversaire de Laurie. Non, pas la chanteuse. Non, on s'est brouillé depuis qu'elle a appris que j'avais fité avec Billy Crawford. Non. Laurie, c'est une amie du lycée. Enfin, quand je dis amie, on était physiquement dans le même lycée et une fois, elle m'a prêté sa gomme. Bon. Bref, il fait froid, le truc est à l'autre bout de Paris, je connais personne, j'ai toujours pas fini de revoir la 8e saison de Charmed. Prue, Piper et Phoebe seront-elles finalement vraiment charmées ? Et pourtant, j'y vais quand même. Pourquoi ? Parce qu'on sait jamais. Voilà. Parce que peut-être que ça va être bien finalement. Peut-être qu'on va rigoler et danser toute la nuit. Alors que je sais très bien que non. Je sais que je vais passer la soirée à me bourrer la gueule au crément en répondant oui quand on me demandera à quel taux j'ai emprunté pour mon appart. Alors on dit souvent qu'il faut apprendre à dire non aux autres. Et c'est vrai que c'est essentiel. Mais je pense qu'il faut aussi savoir se dire non à soi-même. Dire non à cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à faire les choses au cas où. Alors qu'on sait qu'on va pas en profiter et que le temps est précieux. Donc désolée, mais non Lisa, je ne viendrai pas à ton anniversaire samedi. Je peux pas, j'ai yoga ce jour-là.
Merci Camille Dallard. Énergéticienne. Voilà. Nous allons parler de ce quatrième mur avec Laurent Lafitte jusqu'à 12h30. Le personnage de Simon Abkarian s'appelle Marwan. Et justement, c'est Marwan Chahine, qui est journaliste franco-libanais, qui sera notre invité dans quelques instants pour parler de ce qui se passe au Liban et de ce côté pays martyr. On a l'impression que il n'y a pas de moment de répit, malheureusement, pour eux dans leur histoire.
Il n'y en a pas.
La musique dans la vie de Laurent Lafitte, on va partir dans le milieu des années 80. Ah, tellement bon ça.
Côté Lover, hein.
La force tranquille.
Earth, Wind & Fire. Ah, mais tout Earth, Wind & Fire est bon.
Ouais, franchement, ils sont fous. Hein.
Dingue. After the Love Has Gone, il se passe quoi dans ces années 80 pour Laurent Lafitte ?
Vous êtes adolescent ? Vous êtes quel genre d'adolescent, justement, avec cette bande son ?
Ça vous donne pas une petite idée ?
Je préfère.
Je suis érotomane. Qu'est-ce que vous
voulez ? Un dieu de combat. Vous êtes adolescent, mais vous êtes un grand garçon quand même.
Non, mais vous êtes bien dans votre peau ou pas ?
Ado, bof, non, pas trop.
Non, parce que ado, on n'est jamais. On cherche sa place, quoi.
Mais c'est un mélange. En même temps, je suis assez un peu arrogant, un peu soi-disant sûr de moi, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est une c'est un peu compliqué.
Pour cacher
quoi.
Une.
Ouais, sûrement, ouais. Ouais, ouais. J'en fais un peu des caisses pour compenser.
Ouais. Et vous alliez
ado,
au.
Ado, quoi. Ouais. Avec des trop grands bras.
Oui. Voilà. Avec des hormones qui sortent de partout. Voilà, ouais. Enfin, voilà, une espèce de cocktail un peu bizarre.
Voilà.
Attends deux secondes, Léa, c'est pas l'heure.
Avec déjà, je sais pas, des figures, des acteurs, des actrices, des metteurs en scène.
Si on parle de 14-15 ans, oui, ouais. Là c'est vraiment Belmondo de Funès, et puis chez les Américains, Harrison Ford. Après, c'est vrai que j'aimais beaucoup déjà le cinéma des années 50, 40.
D'accord.
Alors que bon, à 15 balais, c'était pas évident, mais mon père m'avait un peu initié à ce cinéma.
Et plutôt de l'humour ? Non, si.
Comment?
Pas spécialement. Parce que j'ai rencontré l'énergéticienne de Camille. Et... un problème.
C'est pas le terme, mais.
Ouais, plutôt l'humour, ouais, bien sûr. Ouais.
C'est-à-dire que vous découvrez aussi le plaisir de faire rire les copains à l'école, d'être le rigolo de la classe.
Bah oui, pour moi, c'est une manière de compenser justement, en fait, une forme de
grand bras.
Ouais, une forme de grand bras, ouais.
Je suis assoyé, il n'avait pas la fin de la phrase.
Ouais, hein. C'est vrai, ouais. Mais pourtant, j'adore parler de moi. J'ai l'impression que c'est le meilleur moyen pour créer du lien et se faire des potes, quoi. Donc, j'essaie de faire rire au maximum. Ouais.
1993.
Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause.
Que se passe-t-il, Leïla, quand il écoute Aznavour?
C'est beau ça.
C'est vrai que c'est beau.
Elle est plus belle celle-là.
Non, et ce qui est beau, c'est l'un des chanteurs qui est acteur.
Bah, complètement.
Il raconte des histoires.
Et même scénariste.
Ouais, c'est ça, dans sa manière de. Ouais. Là, il parle, quoi.
Ah, moi, je crois que je connais quasiment par cœur, pas tout Aznavour, parce qu'il a écrit 1000 chansons, mais j'en connais énormément, même les orchestrations, j'aime beaucoup toute la période Georges Garvarentz et tout. Ouais.
Et vous le prouverez en venant dans N'oubliez pas les paroles. Je vous remercie d'avance. Que se passe-t-il, Leïla?
Non, mais je suis sûr que vous pourrez être un bon interprète d'Aznavour aussi.
Bah, je sais pas. Ouais. Trop tard,
on verra.
Il faut demander à tard.
Trop tard, mais sur scène, on sait jamais.
Trop tard.
S'il vous plaît. Ah ouais, là, c'est le sujet. Mets-en pour lui. Okay, allez. C'est bon, on est parti. À cette période-là, vous intégrez la classe libre du cours Florent avec celle qui va devenir votre agent.
Oui, alors Cécile Felsenberg, absolument, oui. Cécile elle travaillait au secrétariat des cours Florent. Et on était toute une petite clique avec notamment Gilles.
Lelouch,
ouais. On prenait des coups après les cours. On disait on buvait des coups.
Ouais.
On prenait des coups aussi, c'était dans le 19e.
Bah, c'est ce que vous dites, on prenait des coups.
Ouais, c'était dur.
Ouais, j'étais en Weston quand même.
À Glan.
J'ai des grands bras, mais j'ai des Weston. Les gants Weston.
Et on se disait, voilà, on sera comédien, tu seras notre agent, machin, et puis c'est
ce qui est arrivé.
C'est
passé.
En 1996, Dépêche Mode. Où est Laurent Lafitte en 96?
Il prépare le concours du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Quelque chose qui doit rassurer les parents, puisque c'est quelque chose d'académique, une sorte de validation avec un diplôme. On était très inquiets à la maison de vous voir prendre ce chemin.
Peut-être, mais je pense qu'ils m'ont épargné leurs inquiétudes et je leur en serai toujours gré, parce que c'est vrai qu'ils m'ont jamais mis la pression.
Ils étaient en larmes tous les soirs, c'était un indice.
Ils ont appris quand que vous vouliez être acteur?
À 15 ans, quand je leur ai demandé de signer une autorisation, j'avais décroché un rôle dans un téléfilm. Et comme j'étais mineur, il fallait qu'ils signent. Et donc là, j'étais obligé de leur dire que j'avais passé un casting en cachette, quoi. Et puis après ce tournage-là, je pensais qu'à ça. Donc ils m'ont accompagné à partir de 16 ans, ils m'ont accompagné.
Et comment vous avez traversé ces années au conservatoire? Est-ce que c'était l'endroit pour vous?
Pas trop. Je pense que j'avais plus envie d'y rentrer que d'y être.
Ah, joli.
Une fois que j'y étais, j'ai rencontré des gens sympas et tout, mais ça vous fait penser à quelqu'un?
Non.
Vous êtes vraiment dégoûtant.
Oui, absolument.
Vous êtes dégoûtant.
Je vois que vous êtes médiocre.
Il y avait un esprit vraiment
Magali.
Déplacé. Non, mais c'est un endroit qui a été très intéressant. Oui. C'est pas l'endroit où je me suis le plus éclaté, quoi. Oui. Mais ça m'a beaucoup intéressé. Et puis surtout, j'ai beaucoup, beaucoup lu, j'ai beaucoup compensé. Comme j'avais arrêté l'école en seconde, j'ai compensé notamment au niveau littéraire, j'ai compensé pas mal de choses.
Mmh. 2008, vous écoutiez Laurent Lafitte. La place de la musique dans la vie, est-ce que vous mettez de la musique le matin en vous réveillant, vous mettez en condition quand vous jouez un rôle en écoutant une musique particulière?
Pas trop, non, j'écoute pas souvent de la musique, mais quand j'écoute, il faut que ce soit un moment où je ne fais que ça. Donc c'est pour ça que j'en écoute pas souvent, par exemple, mais parce que vraiment, il faut que j'ai rien d'autre à faire. Je peux faire une fixette sur une chanson, l'écouter peut-être
en boucle pendant
en
une
boucle,
semaine,
pas, ouais. Plus qu'une semaine. Il y a une chanson que j'écoute depuis des années très régulièrement. Macassar Park. Je l'écoute tout le temps.
Parce qu'elle vous met dans quel état?
Je sais pas, elle me fascine. J'écoute toutes les versions. Ça, c'est génial avec les
plateformes.
Plateformes, c'est qu'on peut vraiment avoir toutes les versions d'un même titre.
Je pense que quelle chanson?
MacArthur Park.
Ah oui, d'accord.
On va la chercher.
MacArthur.
Oui, c'est ça. J'avais pas la prononciation. Je connais MacAssure Park. C'est un type qui a une cassure. Enfin,
non, décidément, après les avocats.
Pardon. On l'aura tout à l'heure dans la BO.
Et 2008, on vous retrouve sur scène. Laurent Lafitte, comme son nom l'indique, ça c'était le nom de votre spectacle. Avec, on en a déjà parlé dans cette émission, des moments plus ou moins simples, hein, parce qu'il faut remplir la salle et qu'au début, c'est pas forcément évident.
Oui, au début, oui. Ouais. Bah, au début, surtout que les gens ne me connaissaient pas. Ils venaient par hasard, parce que les places étaient à 5 euros sur Ticketac.
Ticketac.
Ça existe encore. Billet réduc.
Oui, c'est Billet réduc maintenant.
Et ils venaient voir le spectacle, mais sans trop savoir, quoi. Donc, le début, c'était compliqué, ouais. Mais bon, après, j'ai eu de la chance parce que le spectacle a très bien marché.
Et on vous retrouve aussi dans Des gens, le spectacle de Zabou Bretman, d'après.
D'après les Vraiment de Pardon. De... Ouais, ça, je le jouais à 19h et à 22h, je courais au Palais des Glaces jouer mon one man. Ouais.
En 2017, justement, MacArthur Park. All the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. J'imagine qu'il y a eu plein de BO qui ont dû prendre des versions différentes de ce morceau qui vit justement avec plein d'étapes, plein d'actes différents.
Ouais, ça c'est la version de création originale. Il y a une version de Donna Summer qui est géniale aussi, qui dure 16 minutes.
Et qui était la BO d'un film.
Je crois pas. Ah bon? Ah peut-être. En tout cas, je sais que la version.
Comment vous êtes en communication
avec Donna Summer. Ça c'est normal. Mais non, mais alors, en tout cas, l'original a été utilisé par Tim Burton dans le dernier Beetlejuice. Il y a toute une scène de mariage dans l'église. Ça m'a fait plaisir.
Et vous la chantez cette chanson?
Oui, mais pas ce matin.
Mais non, parce que je vais vous entendre chanter à un moment.
Il se passe quoi dans la vie en 2017-2018?
Plein de choses, plein de films, et aussi deux nominations au César à cette époque-là pour Elle, et aussi pour Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel. Des réalisateurs et réalisatrices là qui continuent de vous proposer aussi des rôles très très différents. Est-ce que vous vous sentez gâté dans votre carrière d'acteur?
Ah bah oui. Bah oui, très 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 gâté. C'est vrai que je reçois des propositions très très différentes et ça correspond à mes goûts moi-même de spectateur, donc je suis content.
Reparlons de ce quatrième mur qui sort aujourd'hui au cinéma, formidablement interprété par Laurent Lafitte, Simon Abkarian, Manal Issa, entre autres. Et justement, le personnage de Simon Abkarian s'appelle Marwan. C'est Marwan Chahine que nous recevons aujourd'hui. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez travaillé à Libération, vous avez signé aux éditions Belfond, Beyrouth, 13 avril 75, Autopsie d'une étincelle, paru en septembre dernier, qui a gagné le prix France-Liban en 2024. La première question, à part savoir comment vous allez?
Moi, ça va très bien.
La deuxième question, c'est comment va le Liban?
Un petit peu moins bien.
Parce que, un peu comme ce qui est dit dans le film, on n'y comprend rien. Qu'est-ce qui se passe avec le Liban, dans l'histoire du Liban, globalement? Est-ce que c'est sa position géographique,
son histoire?
Son histoire intérieure, ses ennemis extérieurs, qu'est-ce qui fait que, malheureusement, il n'y a pas de paix durable?
Mais c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire c'est ces deux dimensions. C'est à la fois un équilibre intérieur fragile depuis que le pays existe. Le pays existe depuis 1920 et a été indépendant en 1943, mais c'est un pays qui a jamais vraiment trouvé son modèle pour faire tenir ensemble plusieurs communautés.
Et pourtant, il a toujours représenté, pardon, l'élite, avec l'Égypte, hein, bien sûr, l'élite intellectuelle, on va se calmer, l'élite intellectuelle, le vivre ensemble, l'élégance, l'art, l'écriture, enfin...
Ça dépend d'où tu viens, quoi, et qui tu es dans ce pays, en fait. Je sais pas.
Hein. Ouais, beaucoup, c'est-à-dire, et en Égypte aussi, il y a une grande partie de trompe-l'œil, c'est-à-dire que, ça, oui, il y a clair, eu un âge d'or, mais qui
est représenté... On va s'arrêter maintenant, j'ai pas du tout quoi.
C'est à l'Égypte.
Mais pour revenir au Liban, il y a la fois... Donc du coup un difficile équilibre interne et en effet il y a ses voisins, c'est-à-dire au nord et à l'est la Syrie et au sud Israël qui depuis en fait qui les deux ont jamais enfin ont toujours agi enfin et les autres puissances de la région qui ont toujours fait enfin fragilisé ou appuyé là où ça fait mal.
J'exagère en disant qu'il y a toujours eu la guerre depuis les années 50 ou est-ce qu'il y a eu une longue période de paix?
Non, il y a des petites périodes de paix, mais en fait, on ne sait jamais trop si c'est si c'est des moments de paix ou qui c'est qui arrête la guerre ou l'inverse, quoi. Mmh. Voilà, exactement. Et en fait, oui, parce qu'en fait, dès 48, dès qu'il y a la première guerre israélo-arabe, en fait, ça crée une vraie division au sein de la société libanaise et ça fragilise ce modèle qui est censé être ni occidental ni oriental. En fait, les Libanais sont pas d'accord sur la façon de définir leur pays. En 58, on va avoir la même chose avec l'idée de la République arabe unie, avec toujours l'Égypte et la Syrie qui décident de former un État, une partie des Libanais veut être attachée, une autre partie, notamment les chrétiens, disent pas du tout. En 75, on va avoir une guerre civile et les Libanais vont se diviser autour de la question palestinienne au Liban. Et ensuite, il va y avoir une succession de guerres avec Israël en 96, en 2006 et plus récemment en 2023-24.
Il y a beaucoup de composantes, beaucoup de communautés, de religions au sein du Liban qui ont pu vivre ensemble tranquillement et sans se... déchirés.
Et des statuts différents, pardon, parce qu'il y a des communautés, mais qui n'ont pas les mêmes statuts. C'est-à-dire que si on parle là des Palestiniens, ce sont des réfugiés.
Oui, ils sont dans des camps.
Voilà, c'est dans des camps, ce qui n'a rien à voir avec des druzes. Voilà,
non, mais il y a déjà, c'est ça. En fait, alors, donc le Liban est un système confessionnel. En réalité, il y a 18 religions. Donc pour un pays qui est grand, qui fait 10 000 km², c'est-à-dire la Corse, quoi. Ouais. C'est plus petit que la Gironde, pour donner une petite idée. Et donc il y a 18 communautés. Il y a une répartition communautaire des pouvoirs. Les chrétiens maronites ont certaines prébendes, comme notamment la présidence de la République et le commandement des armées. Les sunnites vont avoir le poste de premier ministre et les chiites le poste de président de l'Assemblée nationale. Donc il y a ça. Et par ailleurs, il y a aussi en effet des réfugiés, que ce soit des réfugiés palestiniens qui n'ont pas les mêmes droits que les citoyens libanais ou des réfugiés syriens plus récemment qui, pareil, n'ont pas exactement les mêmes droits. Donc en effet, c'est une situation un petit peu compliquée.
Quel est votre sentiment sur ce qui peut se passer dans les années qui viennent ou les mois qui viennent ?
Alors bon, là, le Liban sort d'une série de crises assez catastrophiques, avec une énorme crise économique, une des plus importantes qu'ait subi un pays au cours de ces dernières années.
Avec la totale détournement de fonds.
Voilà, une corruption institutionnalisée, voilà, en fait, ça, une crise politique. Là-dessus, il y a eu l'explosion du port et la guerre récente où Israël a causé d'énormes dommages matériels et humains au pays. Donc on est encore en situation de deuil. Mais depuis quelques jours, il y a un léger sentiment d'espoir parce que ça va paraître anecdotique, mais en fait, le Liban a de nouveau un président de la République qui est Joseph Aoun et qui était le chef des armées et un premier ministre qui est Nawaf Salam et qui est un homme réputé honnête, en fait, ce qui a été le contraire de la plupart des dirigeants politiques libanais jusque-là. Donc il y a un demi-espoir qui s'en trouve, et voilà.
Beyrouth, 13 avril 75, autopsie d'une étincelle aux éditions Bellefond. Merci Marwan Chahine d'être venu et souhaitons plein de bonnes choses au Liban et à la paix au Proche-Orient.
Oui, moi je voulais juste vous demander le rôle de la France, justement, dans cette répartition au moment de la fin du protectorat, de cette répartition par communauté du pouvoir. Est-ce que c'est la France qui a mis ça en place et...
Ouais, c'est même pendant le protectorat. En fait, c'est la France qui crée le Liban en 1920, puisque la France exerce un mandat après la Seconde Guerre mondiale sur le Liban. Et c'est la France qui crée ce qu'on a appelé le Grand Liban et qui va commencer à instaurer ce système confessionnel avec certains avantages pour les chrétiens qui sont la principale communauté sur laquelle la puissance mandataire française s'appuie à l'époque. Et donc, oui, d'une certaine manière, il y a un résidu colonial, même si on n'aime pas employer ces mots-là au Liban, dans la fragilité du système politique libanais, quoi.
Merci Marwan Chahine. Tout de suite, voici Bruno Pecky. Bravo.
Bon, les amis, vous commencez à me connaître, hein, donc vous, vous savez. Mais les auditrices et auditeurs, peut-être pas encore. Il se trouve que je suis beau gosse. Non, mais il faut le dire, parce que vous, quoi. Vous me voyez chaque mercredi. Vous me voyez chaque mercredi, et je sais que comparé à vos chroniqueurs quotidiens, je suis votre rayon de soleil hebdomadaire. Mais parmi les auditeurs, il y en a peut-être qui n'ont pas vu mes chroniques en vidéo, et j'ai les chiffres, donc il n'y a pas de peut-être, je sais qu'il y en a qui ne les ont pas vus. On peut les chiffrer en millions. Et attention, je dis pas que je suis beau par narcissisme, hein, je le dis parce qu'il y a une réflexion derrière. Je pense que c'est un gâchis que je sois à la radio. Voilà. Non, je vous adore, hein, mais j'ai pas le physique de l'emploi, quoi. Je me disais ce matin sur le chemin de la radio, quel gâchis que mes beaux yeux bleus soient utilisés pour lire un papier et pas pour être en gros plan sur grand écran. Ah, parce que moi, je veux même pas passer par le petit écran, hein, je le laisse à Nagui et Léla. Moi, je veux direct le grand, quoi. Non, je le dis clairement parce qu'on sait jamais qui y a parmi les auditeurs. Donc, s'il y a un réalisateur, une agent, une directrice de casting, je suis là, hein. Après, voilà, pas sûr que Steven Spielberg écoute France Inter, mais sait-on jamais. Peut-être qu'il écoute la radio, il a quand même réalisé Jurassic Park, donc il a l'air d'apprécier les trucs préhistoriques. Ah, si seulement on recevait comme invité des gens qui étaient un tout petit peu installés dans le monde du 7e art. Mais bref. Je dis ça, mais j'ai rien contre vous, mes chers collègues. Hein. Je vous kiffe, mais ce taf de chroniqueur, là... Bon, bah, c'est mon plan B, quoi. C'est, disons que c'est mon job alimentaire. Voilà. Donc, autant vous dire que je mange pas beaucoup. Il est temps d'envisager donc ma reconversion. Après, je suis conscient que pour faire une reconversion professionnelle, il faut déjà en avoir une de profession. Moi, je viens sur France Inter une fois par semaine, les mercredis pendant 1h30. Manque plus que papa et maman me déposent à la maison de la radio et on peut dire que c'est une activité extrascolaire. Et je suis conscient aussi que pour se reconvertir, il faut avoir une autre opportunité. Alors en ce moment, j'en ai pas, mais j'en ai déjà eu. Hein. C'était il y a 3 ans, mon seul et unique contrat pro en tant qu'acteur dans une série suisse. Depuis, plus rien. Voilà. Bon, c'est peut-être un indice sur mon potentiel, mais j'en garde un magnifique souvenir de ce tournage parce que j'ai rencontré ma copine dans ce projet. Ouais. Voilà. D'ailleurs, maintenant, je la soupçonne de faire foirer tous mes castings pour me garder que pour elle. Elle appelle les réals en disant « Est-ce que pendant le casting, il a uriné sur les autres comédiens ?» Non ? Ah bah, je suis super contente, ça veut dire qu'il a arrêté, tant mieux. Bah, sinon, comment expliquer que je décroche aucun rôle, hein ? Ne répondez pas à cette question. Voilà, c'est... Non mais vraiment, je veux devenir acteur. Hein. Pour appliquer cette fameuse phrase « Sois l'acteur de ta vie ». Bah moi, je veux bien, hein. Mais les directeurs de casting, eux moins, a priori. Dans le rôle de ma vie, ils préfèrent prendre Vincent Lacoste ou un des 8 frères Schneider, visiblement. Quoi. Et vous savez pourquoi je veux devenir acteur? Parce que j'en ai marre d'être spectateur. Voilà, je passe trop de temps dans les cinémas, donc je deviens snob. Maintenant, quand je vais voir un film, je vais être bousculé. Mais il y a encore 6 mois, si quelqu'un m'avait dit « Moi, au cinéma, je veux être bousculé », j'aurais répondu « Bah vas-y, assieds-toi devant, je donne des coups de pied dans le dossier, quoi. » C'est peut-être à cause de moi qu'ils ont inventé la 4DX, hein, je m'en excuse. Ah mais avant, moi, j'étais pas comme ça. Moi, je voyais le cinéma comme du pur divertissement, je me posais pas de questions. Quand j'étais petit, je pensais que quand quelqu'un dans un film se faisait tirer dessus, il mourrait pour de vrai. Ouais. Aujourd'hui, je sais que c'est pas le cas, hein, sauf quand Alec Baldwin est dans le casting. Ah, mais maintenant, je suis devenu un mordu de cinéma d'auteur. Ça aussi, c'est grâce à ma copine. Hein, moi, à la base, j'ai trouvé ce genre de cinéma élitiste et snob. Puis ma copine est entrée dans ma vie, et comme j'ai pas de personnalité, bah, maintenant j'aime le cinéma d'auteur. Voilà, je suis devenu un spectateur exigeant, et pas qu'avec les films, hein, mais aussi avec les autres spectateurs. Maintenant, il suffit que quelqu'un arrive en retard, utilise la lumière du téléphone pour trouver son siège, ou qu'il mange son popcorn un peu trop fort, ou pire, qu'il parle pendant le film pour que je sorte de mes gonds et que je m'énerve férocement en faisant oh. Wow. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Que je lui demande gentiment de faire moins de bruit? Oh. Je préfère faire des bruits avec ma bouche pour critiquer ceux qui en font trop, quoi. Je suis une merde. Heureusement que je suis pas pompier à Los Angeles, j'essaierai d'éteindre les incendies avec du diesel, quoi. Bref, c'est pour toutes ces raisons qu'il faut me faire passer de l'autre côté de l'écran, mais comme j'ai conscience que ça va pas arriver tout de suite, à moins que monsieur Lafitte ait 2-3 contacts, bah, je vous dis à la semaine prochaine, quoi.
Merci!
Sur scène à Paris, à la Petite Loge, ce sera le 23 janvier.
Tanguy Passureau, de quoi allons-nous parler?
Je parlais des 3 Français qui vont rencontrer Donald Trump de manière officielle bientôt. Oh. C'est pas Macron, c'est pas Bayrou, c'est pas Larcher. Il y a des surprises.
C'est la bande originale. Camille Lavabre, Bruno Pecky, le beau gosse, Tanguy Bassureau, Hol de la
bonjour.
Et notre invité Laurent Lafitte.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Laurent Lafitte au cinéma avec le 4e mur réalisé par David Welf. Wellofen, interprété avec ce film par Laurent Lafitte et Simon Abkarian et Mana Lisa et des acteurs et des actrices qui sont encore à Beyrouth pour lesquels vous aviez une pensée. Alors c'est vrai que ce film raconte une tragédie, celle de la guerre dans les années 80. On est dans une guerre civile, on est dans une guerre de religion, dans une tension, dans la peur finalement que n'importe quel sniper à n'importe quel coin de rue, sa vie bascule. La mort est vraiment à tous les coins de rue. Et au milieu de ça, l'art est-il la solution? Est-il la lueur qui peut faire briller les choses, même si le théâtre est totalement dévasté?
Oui, on répète dans un théâtre en ruine.
Ouais, votre personnage dit j'aime même dans l'état dans lequel il est, j'aime ce théâtre. J'aime c'est vrai que c'est un théâtre.
Ouais. Même en ruine, c'est beau un théâtre. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est l'art plus fort que la guerre, non, mais sans doute pas, mais l'art pendant la guerre, l'art malgré la guerre, et puis l'art qui le danger aussi de la guerre, c'est pas uniquement la mort physique, c'est aussi la déshumanisation pour ceux qui tombent pas au combat, donc et l'art empêche la déshumanisation. On a vu pendant le Covid quand on nous a dit que c'était quelque chose qui n'était pas essentiel, quand on a été réduit à des machines à consommer, à travailler, à sortir une heure par jour, on a bien vu que quand on n'avait plus accès à la culture, on était déshumanisé. Donc ça raconte aussi ça.
Parce que l'art est politique aussi, il y a toujours et souvent en tout cas des valeurs, des messages qui sont portés, peut-être même faire évoluer les mentalités.
Oui, il n'y a pas que l'art qui est politique. Hein. Même choisir d'être sur X ou Instagram ou Facebook, tout devient politique parce que les enjeux sont tellement politiques.
Vous posez la question d'ailleurs.
Non, moi je suis sur aucun des réseaux sociaux.
Mais vous entendez cette discussion, en tout cas de ceux qui disent je ne veux pas servir la soupe à Elon Musk. Et donc je me retire des réseaux sociaux.
Bah oui,
vous encourageriez même ce genre de.
Vu les récentes déclarations, oui, j'encouragerais franchement à ce qu'il y ait un grand mouvement. De masse.
Qui est inquiétant, et les montées des extrêmes aussi, et on sait que la première chose qui est atteinte aussi, c'est l'expression, la liberté d'expression, mais aussi la liberté d'exercer son art. Alors, on l'a constaté dans différentes villes, des aides qui sont moins là pour le théâtre, des accueils de tournage moins propices, des artistes qui boycottaient même certaines municipalités en France. Ça veut dire que même vous, quand vous choisissez un rôle ou des valeurs à porter, tout ça, ça passe par le prisme de votre réflexion?
Oui, c'est sûr, quand je reçois un scénario comme Le Quatrième Mur, ça me permet moi aussi de m'exprimer sur certains sujets en restant au bon endroit et là où j'ai l'impression de pouvoir être efficace, alors que si je parle moi en mon nom propre, je donne mon avis sur des choses, je suis pas géopoliticien, je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt, voire même que ce soit contre-productif. Alors que là je reste à un endroit de légitimité.
Et encore une fois, avec tout le respect que je dois au Liban, je ne fais pas exprès de dire Le Quatrième Mur peut être vu sur n'importe quelle situation, n'importe quel pays, parce que vraiment ça se sert et ça s'appuie, ça se nourrit des ressorts de la société libanaise, mais ça raconte aussi une histoire humaine, une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire de promesse à un ami, de parole donnée avec quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout, quitte à risquer ma vie pour cette parole donnée.
Oui, oui, il risque sa vie puisqu'il veut monter. En plus, il pousse un peu le pari parce qu'il veut carrément jouer sur la ligne de démarcation. Et puis c'est aussi sur la déshumanisation. À quel moment on bascule? À quel moment on est rattrapé par l'horreur contre laquelle on essaie de lutter, quoi. Il y a des moments où on peut plus, quoi. Il y a des moments où on est avalé par la tragédie. Et c'est aussi le sujet.
Formidablement interprété et aujourd'hui au cinéma Le Quatrième Mur. Voici Monsieur Tanguy Pastureau.
Bravo. Hier après-midi, en fait, j'ai fait une longue sieste. En fait, j'ai mis BFM TV, ils ont diffusé le discours de politique générale de François Bayrou, je suis tombé. Je me suis réveillé que ce matin. Bayrou m'a toujours fait cet effet-là, c'est pour ça que je n'accepte qu'on me parle de lui que quand je suis à la maison de la literie. J'en profite pour tester les produits. J'ai rien contre, hein. Le gars est mesuré, un centriste à la présence discrète. Dans un sens, ça fait du bien, dans ce 2025 hystérique où tout le monde hurle, d'avoir une espèce de bon style avec plus de cheveux. En fait, Bayrou, c'est une sorte de balle anti-stress que seule sa femme pourrait malaxer. J'imagine que quand il va croiser croisé cet excité d'Elon Musk, on va avoir l'impression de voir Christophe André en playdate avec Ségolène Royal le jour où il a oublié de prendre ses gouttes. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, parce que, alors, j'ai vu la liste des invités à l'investiture de Trump lundi. Bon, il y a peu de Français. Hein. On a une Italienne, Giorgia Meloni, un Hongrois, Viktor Orban. Trump n'a invité que des gens qui pensent comme lui. C'est une sorte de fil Facebook, mais avec des petits fours. Le président chinois a été invité, mais il a décliné. Son activité de tyran l'occupe beaucoup. Quant à Poutine, il peut pas sortir de Russie sous peine d'être arrêté. C'est quelqu'un qui, depuis un an et demi, ne cumule plus aucun maïs, Flying Blue. Il n'est pas prêt d'avoir moins 30% sur un Moscou Tenerife. Bon. Alors, à l'investiture, il y aura des artistes, deux stars de country, un chanteur d'opéra et les Village People. Le groupe qui ressemble à un tas de Playmobil si on avait mélangé le contenu de toutes les boîtes. Le fondateur du groupe, le flic Victor Willis, justifie sa participation en disant que la musique doit être jouée sans tenir compte de la politique. Donc si ces cons-là n'étaient pas des militants gays, ils seraient déjà produits en Syrie devant le nouveau dirigeant, hein, là, vous savez, décrit par les Occidentaux comme un islamiste super open. Le Ben Laden cool, quoi. Donc traduction, il a trouvé le coffre à bijoux de la mère Assad caché sous le lit et il propose de claquer des millions dans des contrats avec l'Europe. Et en français, seules deux personnes ont été invitées à la sauterie de Trump, Éric Zemmour, ainsi que l'unique membre de son parti, Sarah Gnafo. Hein, en France, aux élections, ils font le plus petit score et c'est eux qui finissent aux States. C'est comme si Universal Music signait le gosse qui a été éliminé en premier de la Starac. Même le RN n'a pas reçu de carton avec tout ce qu'ils ont fait. Marine Le Pen, elle rafraîchit la page de son Gmail toutes les 7 secondes. Rien. Le RN pense envoyer quand même une délégation menée par Louis Alliot, maire de Perpignan, à Méridional. Ça va être une sorte de remake du gendarme à New York, mais en plus drôle, hein, parce que sans invite, ils vont rester devant, comme quand tu te présentes à l'entrée d'une boîte Zouk, sapée en Cyrillus. Hein, ça va rappeler le premier mandat de Trump, vous savez, quand Marine Le Pen avait fait comme si elle était attendue, alors qu'en fait, elle buvait un café dans le hall de la Trump Tower, qui est accessible à tout le monde, quoi. Et hier, j'étais sur Internet, je cherchais des nudes de Jean Castex, quand soudain, je vois passer une vidéo de Cyril Hanouna. Vous connaissez Cyril Hanouna, Baba, ou Baba en verlan. Alors, Baba, lundi, dans son émission sur C8, se met à dire « Oui, je peux l'affirmer aujourd'hui. » Donc, l'attente d'attente, hein, l'Assemblée se demande ce qui va être annoncé. Est-ce qu'ils vont partir sur Public Sénat, qui a obtenu le canal 8 de la TNT, auquel cas, ils seraient obligés tous de... Et là, ils se disent « Comment on dit déjà ?» Ah oui, préparé. Mais Hanouna enchaîne et il dit « Je serai avec Elon Musk le 18 février. » Géraldine Maillet demande « Et nous, on sera où ?» Elon Musk, ça l'a fait rêver. D'habitude, sur 10 invités, ils ont 9 influenceurs plus Jean-Marie Bigard. Donc ça la changerait. Mais Hanouna répond « Non, non, pas vous, pas vous. Juste lui. » Gilles Verdez, rapidement, fait donc le bilan de sa vie et se met à pleurer. Et en fait, Hanouna raconte « Il est invité à Mar-a-Lago, en Floride, chez Trump, pour une fête, la grosse jaille. Il y aura des mecs qui forent le sol en criant dans les écolos, des cow-boys ivres, des bimbos connes comme la paille qui se font filmer par Fox News et Candace Owens qui distribue à tout le monde des photomontages de Brigitte Macron avec un zizi en disant « Alors j'avais raison ou j'avais pas raison ?» Et là, Hanouna l'annonce, il aura peut-être 20 minutes en tête-à-tête avec Musk et Trump. Mais il serait 3, donc ce serait un tête-à-tête-à-tête. C'est alors que Jean-Michel Maire, chroniqueur, conclut admiratif en disant à Hanouna « Eh ben mon salaud, parce qu'ils sont très envieux. » Moi, en Floride, je ferais plutôt le circuit Flipper le Dauphin, hein, avec un arrêt à tous les endroits de la plage où Flipper a alerté ses amis sur le fait qu'un canot coulait au large. Bon. Mais eux sont trumpistes, donc c'est leur kiff, comme disent les jeunes, et ceux qui ont l'illusion de l'être encore. Là-dessus, Hanouna apostrophe en direct Mark Zuckerberg, ce monsieur qui s'est mis au sport parce qu'il s'est aplati devant Trump, mais il doit pas avoir l'habitude, il est resté bloqué en position couchée. Bon. En lui disant, Mark, on se voit le 18, parce que dans sa tête, Mark Zuckerberg regarde TPMP, ainsi que la présidente du FMI et le premier ministre indien. Tous tentés d'entendre ce que va dire Bernard Montiel. Mais selon certains, alors en réalité, Hanouna aurait juste souscrit à la formule premium du Mar-a-Lago Club, formule à 100 000 dollars, qui prévoit en effet une nuit au club le 18 février, plus la fiesta, plus la rencontre avec Musk et Trump, les pliques et ploques de la politique simpliste. Formule, alors je vous le dis, qui est complète, il n'y a plus de place. C'est-à-dire que Daniel Morin va devoir investir la fortune qu'il a faite dans le monde du combat illégal d'enfants TDAH ailleurs. Alors après, peut-être que Cyril Hanouna a été invité et qu'il n'a pas eu à payer les 100 000 dollars. Ça, seul lui et son banquier, cet homme heureux qui lui envoie des émojis cœur, le savent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour 100 000 dollars, vous avez un peu d'intimité avec Trump et Musk. C'est le même principe qu'au bois de Vincennes, sauf que personne ne retire son pantalon. Ou alors c'est que la prestation des Village People a vraiment plu et que tout le monde est parti en vrille. Le 18 février, Cyril Hanouna sera donc en Floride, chez Trump et Musk. Il a le sens de la fête. Nous serons ici, en France, avec François Bayrou. Deux salles, deux ambiances.
Merci.
Merci.
Et Tanguy est où sur scène?
Il est ce soir à Colmar et le 26 février, figure-toi, qui sera à Strasbourg.
Ça coûte moins de 100 000 euros pour aller voir Tanguy Passeron.
C'est sûrement mieux.
Je tiens à le rappeler, clairement. Le quatrième mur, le film sort aujourd'hui avec Simon Carian, Manal, Issa et Laurent Lafitte, qui est notre invité d'autres événements culturels, Leïla.
On cherche un livre qui a été adapté, ou qui vient d'être adapté plutôt en bande dessinée, l'histoire d'un fils qui essaye de comprendre pourquoi son père, en 1942, a rejoint le camp allemand. Parallèlement, ce fils est aussi journaliste et en 87, il suit le procès du nazi Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. Et parallèlement à ce procès, il récupère le dossier pénal de son père. Il commence une enquête, une sorte de double procès. C'est un journaliste français, un auteur français. Et il dit qu'il est devenu journaliste, c'est très beau, pour qu'on arrête de lui mentir. Vous le connaissez forcément, Laurent.
Pourquoi il le connaît forcément? Il est connu?
Il est proche du quatrième mur, très très proche.
Sorge Chalandon.
Absolument, c'est genre Sorge Chalandon, qui est écrit Enfant de salaud. Il faut vraiment lire ce
d'accord,
titre.
Ah d'accord, j'ai pas du tout fait le.
Vous avez pas
le
fait le
d'accord.
Ouais, qui a écrit ce bouquin Enfant de salaud. Il raconte cet itinéraire complètement dingue qui a forgé son envie d'être journaliste, qui a forgé son goût pour l'enquête, pour son envie de gratter, de savoir. Il a écrit ce bouquin. Il est sorti en poche récemment. Vous pouvez y avoir accès. Il va être adapté en bande dessinée si vous préférez ce support là. Chez Futuropolis, Sébastien Gnading et Isabelle Merle signe cette adaptation-là et ce récit qui est très intéressant, de se dire à quel point on essaye de comprendre d'où on vient et qui sont nos parents et comment est-ce qu'ils ont pu réagir à certains moments de la guerre, surtout en 42 où ils s'étonnaient du pourquoi rejoindre le camp allemand, pourquoi à ce moment précis, pourquoi pas plus tôt, pourquoi aller combattre aux côtés...
Déjà, pourquoi le faire ?
Pourquoi le faire ? Mais aussi la temporalité, parce que j'imagine que si tu le fais dès le début de la guerre, c'est peut-être plus excusable que un an avant la fin de la guerre, même si tu connais pas la date de fin, mais tu pourrais te dire, est-ce qu'il y a une résistance qui s'organise? Toutes ces questions-là, Sorge Chalandon, je trouve, les aborde avec intelligence. C'est lui qui a écrit donc le quatrième mur, qui a donné lieu à ce film.
Un roman, pardon, chez Grasset. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure.
J'aimerais parler un peu plus, non pas de vos goûts littéraires, Laurent Lafitte. Je sais que vous êtes un grand lecteur.
Non, pas du tout. Ah. Non, je suis pas un grand lecteur. Non, je lis pas beaucoup.
Vous lisez que pour les pièces, enfin les le
en fait,
imposé.
J'ai pas beaucoup de temps de lecture, mais si je dois lire un scénario ou apprendre un texte, ça me prend un peu tout mon temps de lecture, donc je lis pas du tout autant que je voudrais. Non.
Et la dernière chose que vous avez pu lire qui vous a vraiment plu?
J'ai lu un thriller qui se passe au Botswana qui s'appelle Okavango de Karil Ferrin, il s'appelle. C'est lui qui avait écrit Zulu.
D'accord,
Villeneuve avait fait un très bon film. Ouais. Et voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu, mais en vacances, quoi. Parce que j'étais en vacances, puis sinon, j'arrive pas à lire beaucoup.
Pas dans l'envie de vous dire, tiens, ça va peut-être être adapté ou le proposer à quelqu'un pour l'adapter.
Si aussi.
Ou l'adapter lui.
Bah oui, j'aime bien quand je lis un livre, me dire que s'il est libre de droit, ça m'intéresse un peu plus.
ça oriente la lecture un petit peu. Ouais.
Oui.
Autre question, on cherche une pièce de théâtre qui a cartonné dans les années 70. 5 saisons d'affilée, la critique était terrible. Le succès grand, l'auteur du texte décide de l'adapter au cinéma, mais l'histoire se corse, il fait entrer dans la danse un producteur italien qui impose au casting un acteur italien. Absolument, c'est La Cage aux Folles, bien sûr, qui avait fait à l'époque le film 5 millions en France, 6 en Italie, 8 aux États-Unis, adapté aussi à Broadway. Et je vous en parle, vous le savez, parce que c'est un rêve de gosse, ça, je crois.
Oui, alors de gosse, peut-être pas, mais d'ado, déjà, pour moi, c'est un film culte. J'ai pas eu la chance de les voir sur scène, j'étais trop petit, mais...
Il n'y a pas de captation.
Non, il y a une demi-heure,
quelques
je crois.
Quelques extraits, on n'a pas l'intégralité de la pièce.
On n'a pas tout. Et puis, je suis surtout fasciné par Michel Serrault dans ce film. Ouais. Et puis, j'avais découvert, quelques années après, la version Comédie Musicale, qui a été créée en 83 à Broadway, que moi, j'ai dû voir dans les années 90, et à Broadway et à Londres, qui est une manière très différente de raconter cette histoire, mais c'est du pur Broadway, et c'est vrai que je vais avoir la chance de...
Et c'est celle que vous allez
frotter.
Faire.
Oui, au Châtelet.
En décembre?
Oui, décembre 25. Dans la location est ouverte.
Dans le rôle de Zaza.
Zaza, ouais. Albin, alias Zaza Napoli.
Et avec Olivier Py à la baguette?
Olivier Py, mise en scène et adaptation en français de la comédie musicale américaine.
Et qui d'autre autour de vous?
Alors là, c'est en train de se faire, là.
Ah, le casting?
Oui, c'est en train d'auditionner, de créer toute
Karen la... Karen Otto, c'est qui?
Bah, on va voir.
Justement. Ouais, mais est-ce que là, vous avez votre, pardon, est-ce que vous avez votre mot à dire? Parce que il y a un jeu de complicité.
Ouais,
dans,
oui.
C'est un duo, pardon. Hein, je dois à tout le monde.
Non, bien sûr, c'est un tandem.
C'est un tandem.
La comédie musicale est beaucoup plus chorale. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le cabaret. Il n'y a pas dans la pièce. Et là, notamment ce qui provoque des grands numéros de comédie musicale.
J'entends.
Donc il y a une troupe très importante autour.
Mais on attend tous le duo Poiret-Serrault, évidemment.
Bah oui, mais là, je peux pas vous répondre encore parce que c'est en train d'être. Parce que c'est compliqué en France de trouver des acteurs qui chantent.
Alors,
réduit tout de suite le.
Je ne voulais pas que vous répondiez. Ouais. Je voulais savoir si vous avez votre mot à dire avec Olivier Py parce que vous serez directement concerné.
Je le laisse.
Soit, même si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas.
Bah, je lui fais confiance.
Eric Zemmour.
C'est un bel après comédie française quand même.
L'idée.
Bah, ça, ouais, c'est sûr que
c'est flamboyant.
C'est autre chose. Mais on reste dans j'espère, dans le même niveau d'exigence.
Bien
c'est
sûr.
Pour ça qu'avec Olivier puis et aux têtes du Châtelet, j'ai l'impression quand même d'essayer de faire aussi bien.
Parce que la cage aux folles.
Hyper prétentieux, le mec.
Non, mais est-ce que l'idée est venue aux Français? Est-ce que vous étiez aux Français au moment où vous êtes dit ensemble?
Ça fait très très longtemps que j'avais envie de le faire. C'était pas possible. Et oui, j'étais encore aux Français. J'ai commencé un peu à me renseigner pour savoir si je pouvais jouer au Châtelet en étant la Comédie Française. C'était pas possible. Parce qu'on n'a pas le droit de jouer dans un théâtre. Châtelet, c'est un théâtre municipal. Et quand on est la Comédie Française, on ne peut jouer que dans les théâtres nationaux. Et pour Paris, intramuros, en tout cas. C'est-à-dire Théâtre de la Colline, Théâtre de l'Odéon, il y a l'Athénée, enfin il y a peu de salles dans lesquelles on peut jouer. Et le Châtelet n'en faisait pas partie. Voilà.
Et pas de dérogation.
Non, on peut pas avoir de dérogation pour jouer ni dans le privé, ni dans les salles. Pardon ?
Un mot des parents. Quoi.
Un mot des parents.
Ça sera, du 5 décembre 25. Les locations sont déjà ouvertes et ça va être blindasse.
Ça démarre bien. Ouais.
Et jusqu'au 10 janvier 26, donc sur une période relativement, courte.
Ouais, on a fait une quarantaine.
Une quarantaine de représentations. Ouais. Avec dans le rôle donc de Zaza, Laurent Lafitte. Laurent, vous êtes toujours à l'affiche de Sarah Bernard, la divine de Guillaume Nicloux, dont nous avions parlé à ce micro avec Sandrine Kiberlin dans le rôle titre. Vous incarnez Lucien Guitry, l'une des histoires d'amour avec Sarah Bernard. Vous avez également en projet celui de doubler Jules César, ou ça a déjà été fait ?
Ah oui, c'est fait. Oui, c'est fait, Jules César. Oui, je l'ai fait il y a longtemps, parce que comme c'est très long, c'est de l'animation, c'est la série d'animation d'Alain Chabat pour Netflix. Ça, c'est fait, ouais.
Ça sort quand, vous le savez ou pas ?
Non, je sais pas.
Okay.
Je sais pas.
Vous allez être aussi, quand même, c'est important, vous allez incarner François-Marie Bagné.
Oui, alors un personnage librement inspiré de François-Marie Bagné.
Dans le film La femme la plus riche du monde avec Isabelle Huppert, réalisé par Thierry Cliffa.
Oui, et Marina Foïs, Raphaël Personnaz. Mmh. Et oui, c'est
Marina qui sera avec nous vendredi d'ailleurs, pardon.
Oui, d'accord.
Et donc vous
moi je fais un photographe qui rencontre une femme très riche.
Rien à voir avec Barney.
Qui dirige une grande compagnie internationale de cosmétiques. Et cette femme va s'enticher de ce trublion.
Vous serez également dans Classe moyenne d'Anthony Cordier avec Élodie Bouchèze et Laure Calamy.
Et Ramzi Bedia.
Pardon. Vous serez dans Autoscopie de Nicolas Charlet et Bruno Laven avec Blanche Gardin.
Oui.
Les deux films sont des comédies.
Oui, les deux films sont... Classe moyenne, c'est vraiment une satire sociale un peu dans la veine, si on est très ambitieux, de Parasite. C'est un jeu de massacre entre un couple bourgeois qui a une maison dans le sud et leurs employés de maison qui décident de se séparer. Ça va pas se passer comme prévu. Et Autoscopie, Nicolas et Bruno, vous vous souvenez, ils avaient fait La personne aux deux personnes avec Alain Chabat et Yannel Auteuil. Et ils sont toujours dans leur obsession du double. Et là, c'est un type qui s'appelle Alex, qui est chauve, qui vit dans une petite maison mitoyenne, et son nouveau voisin qui vient s'installer dans l'autre partie de la maison mitoyenne s'appelle Axel, et c'est son sosie mais avec des cheveux. Et à partir de ce moment-là,
quel bon pitch.
Bah oui. À partir du moment où il va commencer à se comparer, comme on le fait beaucoup avec nos petits appareils dans la poche là, à partir du moment où il va commencer à se comparer, sa vie va partir en vrille alors que tout allait bien.
L'envie de réaliser, j'imagine, est toujours présente. Vous êtes déjà passé derrière la caméra. La question, est-ce que le prochain film que vous allez réaliser sera une adaptation ou un scénario original?
C'est l'adaptation d'un livre, justement.
De vacances?
Non, pas d'un livre de vacances, non, c'est un livre Le Voyant des Tempes d'Abel Quentin.
Ouais.
Voilà, je travaille à l'adaptation de ce livre.
C'est dur comme exercice, ça, de prendre un livre et de le ramener à un film d'une heure et demie?
Bah, ça dépend des livres. Celui-là, je trouve, le film est brillant, et notamment dans sa...
Le livre.
Le livre est brillant, et notamment dans sa construction, dans sa structure. Il a déjà une structure qui est assez cinématographique, en fait. Donc, c'est assez,
et c'est vous qui avez
simple. Mais...
C'est vous qui avez vu le déclic, ou quelqu'un vous l'a porté en disant, tu devrais lire ça, ça peut devenir un film?
C'est une productrice qui me l'a okay. envoyé.
Donc c'est vraiment bien enclenché, comme on dit. C'est un un projet bien,
ouais,
bien
normalement
avancé.
C'est mon prochain film.
Et le titre sera le même ou vous changez?
Non, je vais changer de titre, mais ça je ne sais pas encore. Mais Le Voyant des Tempes, c'est un peu compliqué, je trouve, quand on le dit comme ça. Voilà. Non, ce sera autre chose, mais j'ai pas trouvé encore.
Pour l'instant, le très bon titre qui va avec un très bon film, Le Quatrième Mur. Vraiment, le titre est extraordinairement bien trouvé. Le film est formidable. Avec à la réalisation David Wellhofen et Simon Abkarian, Laurent Lafitte, Manal Issa, entre autres. Oui. Dans les personnages, c'est aussi extrêmement bien joué. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour la famille de Laurent Lafitte. Famille qui, ce matin, est en larmes après l'évocation du drame, à savoir les bras trop longs du petit Lolo. C'est vrai qu'avec des bras d'une longueur normale, il aurait été parfait. Pas cette chose qui peut se gratter les pieds debout sans plier les jambes. Désolé pour le spectateur à qui, un soir de spectacle, Lisa a dit « Eh, t'es venu tout seul, mon salaud !» Et qui, ce matin, s'est dit « Elle se souvient de moi, la souillon !» Non, Jean-Claude, elle dit ça tous les soirs, ça fait partie du spectacle, ne viens pas. Quoi, Lisa? Ah bon, pardon, elle me fait des grands signes, Jean-Claude, je crois que tu peux venir, finalement. D'accord. Désolé pour nos amis assureurs qui se sont sentis stigmatisés vers 11h30. Laurent Lafitte a laissé penser qu'il est possible qu'il y ait moins de séduction dans l'univers de l'assurance que dans le monde du cinéma. Alors, ils s'insurgent, ces assureurs, ils revendiquent leur côté un peu olé, olé, celui de leur profession. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez au côté déglingot du monde de l'assurance. Pourtant, il y a de sacrés loulous qui ont travaillé dans ce secteur. On oublie trop vite que Xavier Bertrand a été assureur quand il était jeune et qu'il était souple. Désolé enfin pour Michel Leb, Michel qui nous écoute, Michel qui en a ras-le-bol de la blague. Tu ressembles un petit peu trop à Laurent Lafitte, Michel. Tu serais pas son fils? C'est une vieille blague de 20 ans, il serait temps d'arrêter. Arrête, Oldelaf, pour l'amour de Dieu, arrête.
Merci Laurent Lafitte d'avoir subi nos vannes, merci d'être venu à ce micro.
Merci d'être resté, surtout.
Et bravo pour ce quatrième mur. Demain, nos invités seront Anthony Bajon, formidable acteur, avec Fabrice Duhuel qui réalise le film autour de l'affaire
la comédie de l'année,
Dutroux. Ça s'appelle le dossier Mal d'Aurore.